Parlons d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Reconfinés, protégés, sans mettre à l'arrêt l'économie, c'est la quadrature du cercle à laquelle tous les pays européens sont confrontés, alors que Bruxelles a annoncé une récession de 7% sur l'ensemble du continent. En France, ce sont les plus précaires qui sont victimes d'une double peine. Ils sont particulièrement vulnérables au Covid et la pandémie a aggravé leur situation sociale. Dans la banlieue nord de Paris, à Clichy-sous-Bois, une association a s'élevé feu, né lors des émeutes des banlieues en 2015, distribue aujourd'hui des colis. 60 000 colis alimentaires ont été donnés, ainsi que des kits pour bébés. Juliette Rangeval est allée sur place un jour de distribution.
Posée sur trois tables en métal à l'ombre des grands chênes, une dizaine de cartons. Toute la matinée, des femmes, seules ou accompagnées de leur mère, de leurs enfants, se relaient dans la petite cour pour prendre un sac. Le plus précieux, ce sont les couches et le lait maternisé inabordable pour elles aujourd'hui. Comme pour cette jeune maman, elle est venue avec sa mère et son plus jeune enfant. Il a un an et il enlève sans cesse sa capuche censée le protéger du vent.
Continue. Hop là, super.
Si j'aurais su, j'aurais pas fait d'enfant, je pense. Ah ouais, c'est pas, hein. Ah ouais. Ah, ça fait peur. Hein. La santé, je pense qu'on va s'en sortir. On a quand même des bons scientifiques, des bons médecins. Après, l'économie, ben, ça inquiète quand même. Ben, moins de travail, mon mari travaille moins. Lui, il travaille en intérim. Du coup, ben, c'est en mission, il n'est pas en CDI. Du coup, c'est un peu difficile de trouver des missions. Avant, il travaillait vraiment tout le temps, quoi. Et puis maintenant, ben, quand il y a du travail, on l'appelle. Sinon, il n'y a pas.
Ouais. On va vous mettre l'adresse. Et là, vous mettez votre nom, votre prénom. Vous habitez où, madame Fofana ?
Le couple est hébergé avec ses enfants, chez ses parents à elle, 10 dans un 4 pièces et pas de perspective, plus de travail, des aides au compte-gouttes, très difficile à obtenir. Madame Géroudi connaît tout ça par cœur. C'est la coordinatrice famille d'Assez le Feu. C'est elle qui vérifie que les mamans soient bien au courant de la distribution, qu'elles repartent avec assez de lait.
Du lait pour les personnes qui en prennent.
Quelques compotes.
Des compotes.
Pendant le confinement, plus de 1000 personnes venaient à chaque fois chercher un colis alimentaire. Aujourd'hui, ce n'est pas la même effervescence, mais la crise s'est installée, dit Zouliha Géroudi.
Franchement, on la ressent de plus en plus. C'est, les gens ont peur. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Leurs droits sociaux, etc., ont diminué. On dit beaucoup qu'il y a beaucoup d'aide, mais en vrai, c'est pas vrai. Hein. C'est difficile d'avoir une aide au jour d'aujourd'hui. Hein. Normalement, ça devrait se dérouler facilement, mais là, il faut remplir des dossiers, faire des demandes, avoir des rendez-vous. Et on est dans un contexte qui est très, très difficile parce que on peut pas être à plusieurs dans une salle. Pour prendre rendez-vous, c'est sur une plateforme, etc. Beaucoup de gens ne parlent pas la langue française. Donc, c'est très difficile.
Le mot est utilisé par qui ?
Lorsque Mohamed Mechmash fonde Assez le Feu, la révolte sociale gronde dans les banlieues françaises. Deux ados, Bouna et Ziyed, viennent de mourir électrocutés dans un transformateur en essayant d'échapper à un contrôle de police. S'ensuit un mois d'affrontement entre les jeunes et les forces de l'ordre. Assez le Feu naît de ce drame. Aujourd'hui, Mohamed Mechmash estime que la crise sanitaire fait éclater au grand jour tous les problèmes des quartiers populaires, tout ce qui n'a jamais été réglé au fil des plans banlieues et des différentes politiques de la ville.
C'est pas notre cœur de métier, hein. Nous on était plutôt dans la citoyenneté, réveil des consciences. Là on n'était pas là-dessus, mais on a compris encore une fois quoi, que l'urgence, parce qu'on vit sur ces territoires-là, parce que ces personnes, ce sont nos voisins, ce sont nos amis, on voyait que la difficulté allait être énorme pour eux et que le manque à gagner allait vite devenir un souci alimentaire. Et y compris, on a vu arriver un public qu'on ne voyait pas, des gens qui venaient trouver un travail qui se sont fait licencier, des gens qui clairement, en attendant qu'ils soient régularisés, faisaient des petits boulots par-ci par-là, qui malheureusement s'étaient terminés pour eux, et se sont retrouvés malheureusement à venir eux aussi chercher de l'aide.
Assez le Feu a distribué 60 000 colis alimentaires avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre depuis le début de la crise alimentaire.
C'est à peu près 8 millions d'habitants qui vivent dans les quartiers populaires, donc c'est pas rien. Ça veut dire qu'en gros, comme je vous l'ai dit au début, c'est pas notre cœur de métier. Mais on l'a fait parce qu'il y a eu effectivement une absence. Et quand il y a ces absences, automatiquement, on essaie de combler le vide. Donc nous, on le comble à notre manière. D'autres le comblent d'une autre manière. Et c'est pour ça que la nature a horreur du vide. D'où l'intérêt de remettre les services publics et de soutenir des associations de proximité qui ont un vrai rôle à jouer, leur donner aussi les moyens de le faire pour effectivement juste accompagner des gens qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir vivre dignement et d'être dans du droit commun et non pas être considéré comme une exception.
À l'heure où la crise sociale s'aggrave, il ne faut pas abandonner la population des quartiers populaires.
Et Berlin résiste sans doute mieux que ses voisins. Son taux de chômage s'établit à 6,2% et son PIB, qui avait plongé de presque 10% au dernier trimestre, devrait un peu remonter. Mais en Allemagne, on parle d'une crise pour les femmes, car ce sont elles qui sont les plus touchées par cette crise sanitaire, économique et sociale. Les explications à Berlin de Julien Méchaussi.
En Allemagne, 75% des emplois essentiels sont occupés par des femmes. Des emplois sans lesquels la société ne saurait fonctionner, hôpitaux, services à la personne ou encore éducation. Soit en grande partie des secteurs en première ligne face à la pandémie, avec des conditions de travail pénibles et des rémunérations faibles. Une étude menée par le renommé Institut allemand des études sociales et économiques démontre que ce sont surtout les femmes qui payent les conséquences de la crise. Lorsque les jardins d'enfants et les écoles ont fermé, elles ont été ainsi deux fois plus nombreuses que les hommes à réduire leur temps de travail pour s'occuper des enfants. La raison est connue. En Allemagne, en 2020, les femmes gagnent encore en moyenne un quart de moins que les hommes. À l'image des populations les plus fragiles, la crise sanitaire agit aussi pour les femmes comme un révélateur. Occupés aux deux tiers par des femmes, les emplois à temps partiel ont été les premiers à disparaître avec le ralentissement économique. Tous ces indicateurs laissent craindre à long terme un retour en arrière de plusieurs décennies en termes d'égalité hommes-femmes. Grande organisation de défense des droits des femmes ici, le Frauenrat, le Conseil des femmes, ne cesse d'attirer l'attention sur la situation de celles qu'il considère comme les grandes oubliées de la gestion de la crise. Mais y voit aussi une grande opportunité. Les conséquences sociales de la pandémie obligent les responsables politiques à réagir, avec notamment une véritable reconnaissance salariale dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et qui, comme chacun le sait désormais, sont vitales pour la société.
We'll be proud to say, I am an European.
Et dans le reste de l'Europe, la situation est aussi préoccupante aux côtés des femmes et des précaires. Les jeunes sont aussi les plus touchés. Avec Daniel Vigneron du site myeurope.info, nous allons faire un tour de cette Europe sociale. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors quels sont les pays les plus concernés par cette baisse du niveau de vie ?
Il y a bien sûr des disparités en Europe, mais un rapport de l'Eurofound publié fin septembre montre à quel point l'ensemble des Européens est concerné. Il ressort des 90 000 questionnaires renvoyés au mois de juillet que 8% des employés de l'Union européenne ont perdu leur emploi depuis le début de la crise. Le pays de loin le plus touché à cet égard est l'Espagne, dont le taux de perte d'emploi est exactement le double de la moyenne. Quelques pays s'en tirent beaucoup mieux, à l'instar du Danemark, dont les pertes d'emploi depuis le début de la pandémie ne dépassent pas 4%. Quant à la France, malgré un très fort recours au système de chômage partiel, elle affiche des pertes d'emploi assez élevées, 9%, bien supérieures à celles de l'Allemagne et même de l'Italie.
Et les perspectives semblent donc très sombres.
Oui, dès l'été, plus de la moitié des Européens estimaient impossible de conserver le même niveau de vie au-delà d'un délai de 3 mois. Aucun pays n'est épargné. Car là où la situation est moins défavorable, en Allemagne, 44% des travailleurs ne pensent pas possible de maintenir leur niveau de vie. Un chiffre inquiétant pour la première économie d'Europe. Mais c'est nettement mieux qu'en Europe orientale ou en Pologne, où 7 travailleurs sur 10 craignent une chute de leurs revenus, ou qu'en France, où ils ne sont pas loin des 60%.
Et comment expliquez-vous, Daniel, le pessimisme allemand ?
Sans doute par la montée de la pauvreté qui, outre Rhin, touche 13 millions de personnes. Les réformes du droit du travail du début du millénaire y ont beaucoup diminué la protection des travailleurs précaires et il n'est pas sûr que les aides prévues par le plan de soutien parviennent à limiter la casse. Cela dit, la montée de la pauvreté concerne beaucoup de pays. En France, 8 millions de personnes ont recours aux banques alimentaires contre 5,5 millions avant le Covid. Au Royaume-Uni, ces recours ont augmenté de 60%.
Alors on va commencer par parler des inégalités hommes-femmes.
Les femmes sont plus touchées par cette crise car elles occupent davantage de postes précaires. Leur qualité de vie s'est aussi nettement dégradée. Selon l'enquête Eurofound, 36% d'entre elles se déclarent trop fatiguées après le travail pour s'acquitter de tâches ménagères. Les hommes ne sont que 28%. Et surtout, près de 30% des femmes, trois fois plus que les hommes, ont du mal à se concentrer sur le travail à cause de leur famille. Et comment ne pas rappeler la hausse des violences envers les femmes que les confinements du printemps ont engendrées.
Et puis aux côtés des femmes, les jeunes paient aussi un lourd tribut économique.
Oui, et c'est une sorte de paradoxe puisque médicalement, les jeunes sont épargnés par les formes graves du coronavirus. Mais les 18-34 ans pâtissent de la crise de deux façons. D'une part, leur entrée sur le marché du travail est encore bien plus difficile qu'auparavant, tandis que les petits boulots alimentaires, ceux qui font vivre les étudiants, se raréfient. D'autre part, les jeunes ont pris un sacré coup au moral avec les mesures de couvre-feu et de restriction des contacts qui les empêchent de profiter de leurs loisirs habituels. Il est symptomatique que 37% des jeunes européens se déclarent harassés après le travail, contre 27% des plus de 50 ans.
Merci beaucoup Daniel Vigneron, à très bientôt.
À bientôt Frédéric.
En Espagne, le chiffre du chômage a passé la barre des 16% pour ce troisième trimestre 2020 dans la ville de Salamanque, dans l'ouest du pays. Un pôle universitaire de renommée mondiale qui attire chaque année 34 000 étudiants venus du monde entier. On s'attend à la catastrophe. Les étudiants, mais aussi les touristes, ont déserté la ville. Chronique d'un désastre annoncé avec Diane Cambon.
C'est l'une des artères principales de Salamanque, une rue piétonne qui va de la cathédrale à la Plaza Mayor. Autrefois bondée de touristes et d'étudiants, c'est aujourd'hui une rue tranquille, fréquentée par les autochtones qui passent sans un regard devant les boutiques de souvenirs désertées. Depuis 30 ans, Antonio tient une échoppe de cuir, la spécialité de la région. Un artisan à l'ancienne qui risque de mettre la clé sous la porte.
C'est terrible, pas seulement pour l'artisanat, mais pour tout le monde en général. Moi, je tourne à 10% de rendement. Avant, on vendait dans toute l'Espagne, mais aussi en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon. Là, on ne vend plus rien à personne. Dans cette rue, il y avait des touristes. Et regardez, là, c'est vide. Ça va être une ruine totale.
Comme de nombreuses autres villes d'Espagne, Salamanque a connu un nouveau confinement cet automne pour freiner l'épidémie, limitant les entrées et sorties de la ville. Et la région de Castille est désormais soumise au couvre-feu national de 23h à 6h du matin. Autant de mesures qui minent l'activité économique. Sous les arcades de la prestigieuse Plaza Mayor se trouve le flambant neuf Office du tourisme, mais il est désert. Luis Miguel, un des quatre employés, se lamente de cette situation.
Il n'y a pas de touristes, il y a justement les locaux qui viennent ici pour demander des informations sur les activités culturelles. Mais l'impact du tourisme est vraiment, vraiment énorme parce que, je répète, il n'y a pas de touristes maintenant. Il n'y a pas. C'est une baisse de 90% minimum. Minimum, ouais. C'est énorme. Et Salamanque, c'est une ville qui a les étudiants comme la première industrie de la ville, la première source de richesse. Mais aussi la deuxième, c'est évidemment le tourisme.
Les étudiants représentent une manne financière très importante pour Salamanque. On compte une vingtaine d'écoles de langue et presque autant d'académies, sans parler de la prestigieuse Université de Lettres, où viennent des étudiants de toute l'Espagne, mais aussi les Erasmus européens. Enrique dirige avec son épouse Rosa depuis 18 ans l'école de langue Tia Tula. Il tournait à 6 000 élèves par an, là ils sont à 30% des effectifs. Mais ils ont décidé, vaille que vaille, de maintenir leur école ouverte.
On compense les cours en présentiel avec ceux en ligne, on réduit les coûts au maximum, on ajuste les budgets, il faut tenir le coup. La seule chose positive est que les cours de formation en ligne ont augmenté, car les gens sont chez eux et ils ont plus de besoins ou d'autres envies de se former, car ils doivent rebondir professionnellement et ils disposent de plus de temps.
Mais pour de nombreux secteurs, comme ceux de la restauration ou l'hôtellerie, la disparition des étudiants étrangers constitue une catastrophe, comme le reconnaît Enrique.
Cela affecte tout le monde, car de nombreuses familles vivent de l'accueil des étudiants, mais aussi les hôtels et les restaurants. Car ce ne sont pas seulement les étudiants qui sont là pour quelques mois ou une année, ce sont aussi les familles qui viennent leur rendre visite ou les amis qui se logent dans les petits hôtels. Ici, dans le centre historique, c'est rempli de petits hôtels qui sont très touchés par la situation, et beaucoup ont fermé de façon temporaire.
Sa femme Rosa espère que tous ces bouleversements ne seront pas seulement négatifs.
On ne sait pas si le coronavirus va créer un avant et un après dans le tourisme à moyen terme, si cela va entraîner un changement de mentalité, si les gens vont faire moins de voyages, mais peut-être plus long. On avait beaucoup d'élèves qui venaient juste une semaine. Peut-être que maintenant, ils vont venir moins souvent, mais pour une durée plus longue.
À l'office du tourisme, Luis Miguel, comme beaucoup d'employés, craint dans l'immédiat pour son poste.
Si ça continue comme ça, ça pourrait arriver que s'il n'y a pas des hôtels qui sont ouverts, s'il n'y a pas de tourisme, à la fin, je ne sais pas qu'est-ce qui pourra venir dans les prochains mois. Pour l'instant, oui, on se trouve ouvert parce que c'est aussi une question d'image de la ville. On doit être ouvert et il y a, vous pouvez le voir, qu'il y a encore des personnes qui entrent pour qu'on leur donne des informations. Évidemment, c'est un service public, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de tourisme, c'est pas la peine d'avoir une office de tourisme s'il n'y a pas de touristes.
La plupart des chômages partiels ont été reconduits jusqu'à janvier prochain, permettant aux salariés et entrepreneurs de tenir le coup. Mais déjà, quelques 200 entreprises liées au commerce et à l'industrie agroalimentaire de la région de Salamanque ont dû cesser définitivement leurs activités.
Et au Portugal, le chômage a augmenté de 36% en septembre par rapport à l'année précédente et les indemnités mensuelles ne dépassent pas 400 euros. Résultat, c'est toute une population jusqu'alors épargnée qui bascule dans la pauvreté et qui perd son logement. À Lisbonne, Marilyn Darcy.
Au printemps dernier, dès le début de l'épidémie de Covid, les principales villes du Portugal ont pris des mesures pour accueillir les sans-abri. Il fallait les protéger du virus et bien sûr limiter les foyers de contagion. Mais très vite, c'est un autre type de population qui est venu chercher de l'aide. Des personnes ayant brusquement perdu leur travail et se retrouvant dans l'impossibilité de continuer à payer leur loyer. À Lisbonne, ce sont 4 centres d'accueil qui ont été mis en place pour une offre de quelques 240 lits. L'une des deux auberges de jeunesse de la capitale a même été réquisitionnée pour accueillir cette population à la dérive. La fréquentation est à flux tendu, le nombre de demandeurs ne cesse de croître. Mais pour l'instant, la sécurité sociale, qui détient les cordons de la bourse, n'a pas imposé de limites financières pour venir en aide à ceux qui cherchent un logement. Dans un souci de trouver rapidement une solution, même temporaire, à ces bénéficiaires d'un nouveau genre. L'État a bien mis en place un moratoire pour permettre aux locataires de payer plus tard et de rester dans leur logement. Quelques 800 000 personnes ont déposé un dossier pour en bénéficier. Mais la mesure est insuffisante et parfois trop contraignante dans les délais pour les personnels précaires et ceux les moins qualifiés. Parmi ceux-ci, des employés de bars et de restaurants, des femmes de ménage et des chauffeurs de taxi, victimes de la crise du tourisme, mais aussi des employés de la construction ou des ouvriers agricoles, portugais ou étrangers. Quand ils ont droit au chômage, ce dernier est de 200 ou 300 euros par mois, parfois 450 pour les plus chanceux, ceux qui ont bénéficié d'un contrat de travail à durée limitée. En septembre 2020, ce sont 100 000 personnes supplémentaires qui se sont inscrites au chômage par rapport à septembre 2019. Une situation qui risque encore de s'aggraver si la fin des aides aux entreprises pour le chômage partiel a bien lieu comme prévu fin décembre. À Lisbonne, où depuis le début de l'épidémie, on a déjà traité 23 000 demandes d'aide au logement, on s'apprête à ouvrir un cinquième centre d'accueil en janvier prochain.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé et Jérémy Boucher. On se retrouve dès demain.